France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
À Bristol, en Angleterre, hier, une statue en a remplacé une autre, une jeune femme noire, point levé, a remplacé Edward Colston, marchand d'esclaves de la fin du XVIIe siècle. La jeune femme s'appelle Jane Redd. Début juin, elle avait été photographiée sur le socle vide de la statue de Colston, déboulonnée et jetée à l'eau durant une manifestation du mouvement Black Lives Matter. C'est le sculpteur Mark Quinn qui a réalisé cette nouvelle statue et l'a fait installer sans prévenir la mairie. On ne sait pas ce qu'elle va devenir, mais voilà en tout cas de quoi alimenter les débats qui touchent bien des pays. Chez nous, Emmanuel Macron s'est montré ferme et définitif il y a un mois. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statue. Pas sûr pourtant que la discussion s'arrête là. Derrière ces statues, notre rapport à l'histoire, à la mémoire, nous avons décidé de prendre le temps d'y réfléchir ce matin en partenariat avec l'Obs, qui propose cette semaine un dossier intitulé « Esclavage, un tabou français ». Bonjour Frédéric Réjean.
Bonjour.
Historien, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de La France et ses esclaves publié chez Grasset en 2007 et plus récemment des Maîtres de la Guadeloupe publié l'an dernier chez Talendier. Avec moi pour vous interviewer, Frédéric Réjean, Nathalie Funès de l'Obs, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé donc ce dossier avec Doane Buy et François Reynard. Alors Frédéric Réjean, nous allons parler de la France surtout, mais tout de même, que pensez-vous de ce qui s'est passé à Bristol hier, ce remplacement non autorisé est très symbolique d'une statue par une autre.
Je viens de l'apprendre. Donc
d'accord. Je vous prends au dépourvu, pardon.
Voilà. À cette question, c'est surtout que les autorités municipales n'ont pas été informées. Et voilà, je crains que ce remplacement crée à nouveau d'autres polémiques, alors que le but justement de ces lieux de mémoire, c'est essayer de commémorer, c'est-à-dire de se souvenir ensemble d'événements aussi dramatiques que l'esclavage.
Et est-ce que déboulonner une statue, c'est effacer un nom, comme l'a dit Emmanuel Macron, ou au contraire, ne peut-on pas dire que depuis que ce débat est arrivé ici, alors ici notamment autour de Colbert, on regarde peut-être davantage ces statues, donc ces noms, donc notre histoire?
Oui, à mon avis, ce sont les deux choses à la fois, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu des tentatives de déboulonnage certaines statues comme celle de Schoelcher qui ont été abattues en Martinique, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Maintenant, de l'autre côté, il y a un véritable risque à faire disparaître les traces du passé. Le risque, c'est de ne plus en parler. Moi, je suis plus favorable à l'utilisation de ces traces du passé pour en parler. Je vais vous citer un exemple. À Paris, dans la rue Contrescarpe, il y avait un magasin et il restait de ce magasin la pancarte qui s'appelait « Aux nègres joyeux ». Elle a été vandalisée il y a quelques mois et elle a disparu. Moi, je suis pour qu'elle soit remise en place et qu'on explique qu'ici, il y avait un magasin de produits coloniaux et que le titre de ce magasin, Aux Nègres Joyeux, symbolise justement cet esprit colonial qui existait au début du XXe siècle. Voilà, maintenant que cette pancarte a disparu, c'est aussi une trace du Paris colonial qui a disparu.
Nous parlions un peu plus tôt ce matin avec Emmanuel Laurentin de cancel culture, la culture de l'annulation. On est là-dedans pour vous ?
Oui, un peu, on est là-dedans et ça règle pas pour autant les problèmes du présent. Si aujourd'hui des mouvements très importants de population se font autour à la fois du déboulonnage, c'est aussi parce que les gens vivent très mal la situation du présent. Et c'est ce présent qu'il faut régler. C'est pas en enlevant des statuts que l'on va modifier les difficultés d'insertion sociale d'une partie de la société française.
Nathalie Funès.
Est-ce que vous faites néanmoins une différence, comme beaucoup, et comme beaucoup d'historiens notamment, une différence donc entre les statues et entre les lieux de mémoire et les noms de rues qui sont régulièrement modifiés par les mairies dans toutes les villes de France?
Ah oui, complètement. Changer le nom d'une rue, bon, on le voit très souvent. L'exemple qui me vient en tête, c'est ces anciennes municipalités communistes qui deviennent ensuite soit de droite, soit d'autres partis politiques qui perdent leur rue Staline ou leur rue Lénine. Ça, c'est quelque chose que l'on voit très fréquemment. Maintenant, une statue qui est aussi une œuvre d'art, qui est aussi le témoignage d'une expression artistique du passé, c'est pas la même chose. Et moi, je suis pour que l'on conserve tout ce qui existe et que l'on ajoute à côté d'autres figures.
D'autres figures qui effectivement sont très très peu présentes dans l'espace public et qui mériteraient aussi sans doute de l'occuper.
Oui, complètement. Des figures à la fois de personnes issues des Outre-mer, mais aussi des femmes. Mmh. Si vous regardez au Panthéon, vous avez 5 personnes de couleur et jusqu'à une période très récente, vous n'aviez que 4 femmes. Donc, effectivement, dans nos statuts, il faut prendre en compte toute la diversité de la population française et que ces statuts représentent les défis du présent qui sont l'égalité, la liberté, la fraternité.
Puisque l'on parle de tabou ce matin, Frédéric Réjean, justement, pourquoi, comment expliquez-vous que ces figures que vous citez soient si peu présentes dans l'espace public?
Ben, ces figures sont peu présentes parce que l'histoire s'est construite autour de la célébration entre guillemets de grands hommes et que l'installation de figures féminines dans le récit national de figures issues des Outre-mer ou des autres continents n'est que très récente. Mmh. Vous savez, lorsque Napoléon a fait installer donc les 4 statues qui sont actuellement devant l'Assemblée nationale, dont celle de Colbert, Sully, Michel de l'Hôpital et d'Aguesseau, c'était pour essayer de créer une continuité entre la période de la monarchie, la Révolution et la période de l'Empire qu'il incarnait. Et ce mouvement a été suivi ensuite dans la Troisième République où un certain nombre de figures de serviteurs de la monarchie absolue, comme Sully, comme Colbert, ont été mises en avant comme des serviteurs d'une France éternelle.
Alors justement, vous citez la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Il y a quelques semaines, elle a été dégradée avec de la peinture rouge et une inscription « négrophobie d'État ». Comment vous analysez cette dégradation? Vous considérez-vous que estimer que le code noir est vraiment la naissance du racisme, c'est un contresens absolu? Est-ce que cette bataille autour des statues, autour des noms de rue, autour des lieux de mémoire, c'est pas finalement une connaissance assez faible de l'histoire? Enfin, des pans entiers de l'histoire qui sont mal connus et dont dans lesquels s'inscrit l'histoire de l'esclavage.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une méconnaissance et en ce qui concerne donc Colbert, le code noir crée une législation concernant l'esclavage. Mais un de ces articles indique que tous les affranchis auront les mêmes privilèges, droits et immunités que les personnes nées libres. Mmh. Autrement dit, il ne crée pas de distinction, une fois qu'un esclave est devenu libre, entre un individu libre blanc et un individu libre noir. Donc, c'est un faux procès qui lui est fait sur le plan du racisme. Maintenant, sur la question de l'esclavage, effectivement, oui, c'est une loi qui établit l'esclavage, qui reconnaît et qui fixe la réglementation de l'esclavage dans les colonies françaises.
Alors cette méconnaissance de l'histoire de l'esclavage, elle est évidente dans une partie du grand public, mais la recherche s'intéresse tardivement à cette question. Jusqu'aux années 90-2000, il y avait assez peu de recherche en France sur l'histoire de l'esclavage. Vous-même, vous travaillez depuis 25 ans dans ce domaine et vous avez dit régulièrement que quand vous avez commencé il y a 25 ans, il y avait quasiment rien sur l'esclavage en France. Comment vous expliquez cette situation et quel progrès vous avez vu dans la connaissance de cette histoire?
Alors, expliquer cette situation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le récit historique, les travaux historiques répondent déjà à un mouvement des universitaires. Pendant très longtemps, on s'est plutôt intéressé à l'histoire militaire, à l'histoire diplomatique, à l'histoire politique. Puis, peu à peu, on s'est intéressé à des champs comme l'histoire sociale, l'histoire voilà des gens qui ne sont pas connus, l'histoire de monsieur et de madame tout le monde, puis l'histoire culturelle et finalement ce mouvement de connaissance de l'histoire des masses s'est étendu aux esclaves à partir des années 1990. Mais ce que l'on peut constater, c'est aujourd'hui une très grande vigueur de ce mouvement. Alors, je vous cite un exemple. Par exemple, le prix de thèse du Comité national pour la mémoire de l'histoire de l'esclavage, devenu Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Il y a 15 ans, il y avait 2 thèses candidates par an. Maintenant, nous sommes entre 8 et 12. Donc, vous voyez, il y a un véritable progrès dans ce domaine-là. Maintenant, le problème, c'est le passage entre les connaissances universitaires et le grand public. Mmh. Et là, visiblement, on a le sentiment que plus les choses progressent sur le plan universitaire, et moins ces informations arrivent au grand public. Et ça, c'est aussi un des effets.
Pourquoi? Comment? Ouais.
Je pense que c'est un des effets pervers des réseaux sociaux, où on voit toute une série de personnes qui ne sont pas du tout des historiens professionnels, qui n'ont pas fait de recherche en archives, qui finalement arrivent à faire des 100 000 vues en postant une vidéo un peu provocatrice, un peu humoristique. Et face à cela, les historiens sont quelque peu démunis.
Mmh. C'est une sorte de refus de la complexité, vous analysez ça comme ça?
Oui, c'est toujours plus simple d'avoir des slogans et des mots d'ordre simplistes plutôt que d'entrer dans la complexité. Mais si on veut comprendre l'histoire, il faut bien comprendre qu'elle est complexe.
Et en même temps, peut-être aussi que ça peut être une porte d'entrée, on va dire, pour des personnes qui, justement, jusque-là, ne s'étaient pas intéressées à cette histoire et qui vont ensuite vouloir creuser et aller peut-être vers des travaux plus sérieux, plus scientifiques d'historiens.
Oui, il faut l'espérer.
Est-ce qu'il y a en France aujourd'hui encore des pans, alors je parle du travail des historiens, des chercheurs, des pans de l'histoire de l'esclavage qui sont encore très peu connus, ou est-ce que les progrès qui ont été faits depuis les années 90-2000 ont permis de combler beaucoup de trous?
Mais il y a beaucoup de trous qui ont été comblés, mais il reste encore beaucoup d'archives à dépouiller. Alors je pense notamment aux archives judiciaires. Donc les procès d'esclaves, voire même procès de maîtres traitant inhumainement leurs esclaves dans les années 1840. Un des aspects qu'il serait nécessaire d'étudier davantage, c'est ce qu'on appelle à l'époque les petits blancs, c'est-à-dire des blancs qui sont pauvres, qui sont non propriétaires d'esclaves et qui vivent dans les colonies, et de voir comment s'organisent leur rapport avec les esclaves, et aussi une autre population qui, elle, est vraiment, alors là, pour le coup, très très peu connue du grand public, qui sont les libres de couleur. Alors là, la recherche est très avancée là-dessus, mais finalement, si vous interrogez les gens dans la rue sur les libres de couleur, beaucoup pensent qu'on ne pouvait pas être à la fois noir et libre dans une société coloniale esclavagiste, alors que c'était le cas.
Il y a dans ce dossier de Loves un article sur Fursy. Vous parliez de, voilà, par exemple, y compris des esclaves qui ont gagné des procès contre leurs propriétaires. C'est son cas. Et si j'ai bien compris, cette histoire-là, elle a été tout de même découverte assez récemment.
Oui, elle a été découverte récemment, mais c'était loin d'être un phénomène marginal. Par exemple, en Martinique, on compte plus de 20 000 affranchissements entre 1830 et 1848 pour une population de un peu plus de 60 000 esclaves en 1848. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est aussi un mouvement de fond qui a existé. Mm. Et pourtant, notre mémoire est assez binaire. Elle est seulement en blanc et noir, alors qu'elle devrait épouser toutes les nuances des couleurs. On parle assez peu aussi du métissage extrêmement développé de ces sociétés et de la complexité de l'ancestralité de chacun aux Antilles. Bon, si je cite mon propre exemple familial, et il est loin d'être isolé, ma famille est à la fois descendant d'esclaves et descendant de propriétaires d'esclaves. Mmh. Et donc, c'est cette complexité-là qu'il faut enseigner.
Pour poser quand même la question clairement, Frédéric Réjean, est-ce qu'on peut dire que la France a plus de mal que d'autres à se confronter à cette histoire?
Alors, j'ai pas... non, enfin, pour moi, non. Mmh. Parce que la France est la première à avoir une loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il y a deux dates de célébration nationale. Il y a actuellement un projet de création d'un mémorial aux Tuileries. Je crois que par rapport à la gestion du passé, l'esclavage, l'histoire de l'esclavage est présent dans les programmes scolaires. Par rapport à la gestion du passé, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mm. Le problème, c'est essentiellement un problème du présent. Si des personnes expriment leur colère par les déboulonnages de statut, c'est par rapport à une situation présente ou des revendications. Voilà, à mon avis, il y a deux phénomènes. Il y a des gens qui ont des revendications politiques, type indigène de la République, comme également les nationalistes de la Martinique qui ont abattu les statues de Schœlcher. Là, ce sont des visions très séparatistes sur le plan politique. Et puis, il y a ceux qui expriment leur malaise, le fait de trouver que leur place dans la société n'est pas conforme à leurs aspirations.
Pourtant, dans les retards français entre guillemets, on peut constater qu'il n'y a pas de musée sur l'histoire de l'esclavage en Hexagone. Il y en a un en Guadeloupe, alors que les États-Unis en ont créé un à Washington et que les Britanniques en ont créé un à Liverpool. Est-ce que ça, c'est pas quand même un manque français? Est-ce que ce musée ne permettrait pas d'apaiser un peu les mémoires, les difficultés de mémoire que vous citiez juste maintenant?
Oui, alors dans la situation donc de la France, il existe à Nantes et à Bordeaux, donc Port Négrier comme Liverpool, donc deux musées qui accordent une place assez conséquente à l'esclavage, donc le musée d'Aquitaine et le musée des Ducs de Bretagne, mais c'est vrai qu'il manque à Paris un endroit, un espace muséal. Alors le mémorial des Tuileries, je suis le conseiller scientifique, est censé combler en partie ce manque. Mais bon, on pourrait aussi imaginer que le Louvre puisse ouvrir des salles consacrées à cette histoire, d'autant que dans ses collections, il y a un certain nombre d'œuvres d'art qui permettent de l'illustrer. C'est vrai que au niveau de Paris, la place de l'esclavage est assez limitée et il faut faire davantage pour avoir un vecteur de connaissance de cette histoire auprès de tous les publics.
Et se poser la question de la mémoire, c'est aussi évoquer la délicate question des réparations. Nous en parlons après le journal de 8h et le billet politique avec vous, Frédéric Réjean, historien spécialiste de l'esclavage. Et avec vous donc Nathalie Funès pour ce partenariat avec l'Obs ce matin, bientôt 8h.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
8h21, nous retrouvons notre invité, l'historien Frédéric Régent, pour cette matinale en partenariat avec l'Obs, qui propose cette semaine un grand dossier, esclavage, un tabou français. Nathalie Funès, journaliste à l'Obs, est à mes côtés. Nous avons parlé avant 8h du déboulonnage des statuts, de notre rapport à cette histoire, à cette mémoire de l'esclavage. Frédéric Régent, jusqu'où va le travail de mémoire? Mi-juin, Michel Bachelet, au commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a dénoncé les violences et les discriminations subies depuis des siècles par les Africains et personnes d'origine africaine aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et elle s'est dit favorable à des réparations sous diverses formes. Selon vous, Frédéric Régent, quelles formes doivent prendre ces réparations?
Oui, alors l'expression de les réparations doivent prendre forme sur diverses formes montre bien que le thème des réparations est un peu flou. Alors, je citerai Césaire qui disait que l'esclavage est un crime irréparable que l'on ne peut pas réparer. Maintenant, il faut faire des choses. Alors, on peut appeler cela réparation. Alors, dans ce qui peut et ce qui doit être fait, il y a donc la question de l'enseignement, donc qui doit progresser, et notamment aider les enseignants à avoir les clés, les outils pour appréhender dans leurs cours ces questions de la meilleure manière qu'il soit. Il y a le développement effectivement de lieux de mémoire. Hein, vous avez parlé de musées, de stèles.
Il y a la possibilité aussi de réparation financière.
Alors, oui, alors là, la question, c'est à qui destine-t-on ces réparations et qui paye? Ça, c'est un... Enfin, moi, à titre personnel, je suis défavorable à des réparations qui feraient le tri entre des descendants d'esclaves ou des descendants de propriétaires d'esclaves. Déjà, parce que c'est extrêmement difficile de diviser les deux, parce que beaucoup de gens sont à la fois descendants des deux. Donc voilà, moi je ne suis pas favorable à des réparations de type individuel financière. Maintenant que des efforts soient faits en direction des États ou des régions de la Caraïbe ou des régions qui ont connu l'esclavage pour un meilleur un rééquilibrage sur le plan économique et social, pour ma part j'y suis favorable, mais des réparations qui feraient que moi en tant que voilà issu d'esclave à la 7e génération je toucherais de l'argent, je n'y suis pas du tout favorable.
Nathalie Funès. Mais qu'est-ce que vous pensez que tout de même des expériences qui sont faites par nos voisins? Je pense aux États-Unis, à Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre, qui s'est déclaré prêt à examiner la question. Le 11 juin, le Parlement de l'État de Californie a aussi voté la création d'un groupe de travail chargé de proposer des formules de compensation. Donc visiblement, nos voisins vont un petit peu plus loin que la France. Est-ce que vous êtes opposé aussi à ce genre de démarche ou pas?
Non, je suis pas opposé à ce genre de démarche. Voilà, qu'il y ait des entreprises qui, dans leur passé, ont eu des activités liées à l'esclavage, à la traite négrière, se posent la question et fassent des actions pour à la fois faire connaître ce passé de ces entreprises et puissent aider les descendants d'esclaves, donc victimes de cette histoire. J'y suis favorable. Je pense qu'on peut pas évacuer complètement le débat, mais il faut l'avoir de manière sereine, et il faut pas que ce débat se transforme en une fracture de la société dans laquelle on dirait que tous les blancs sont des descendants d'esclavagistes et tous les
Mmh.
noirs sont des descendants d'esclaves. Ça, je pense que c'est la chose qu'il faut éviter.
Et justement, Frédéric Réjean, quel est l'état du débat sur cette question, enfin, et de la réflexion surtout? Est-ce qu'il y a des endroits, des groupes où on réfléchit déjà dans un premier temps à cette question des réparations?
Alors, il y a des mouvements qui réfléchissent et qui œuvrent en ce sens. C'est vrai qu'au niveau institutionnel français, il n'y a pas de, bon, il y a des universitaires qui réfléchissent également à cette question, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de débat ouvert sur les questions sur le plan institutionnel.
Il y a aussi ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler les réparations symboliques. Le 19 juin dernier, le Parlement européen a reconnu officiellement l'esclavage comme crime contre l'humanité, après la France, donc, qui l'avait fait en 2001, et après le Sénégal. La résolution votée, commencée par La vie des Noirs compte, donc en référence au slogan des mouvements antiracistes qui ont suivi la mort de George Floyd aux États-Unis. Est-ce que ce type de mesure est important pour vous? Est-on dans une forme de réparation symbolique avec ces mesures?
Oui, là, on est tout à fait dans la réparation symbolique, mais encore une fois, il me semble qu'il faut lutter contre les fractures qui existent au sein de notre société, qui sont liées d'ailleurs qui sont des conséquences d'une histoire sociale qui s'inscrit sur la longue durée. Si on veut finalement calmer la colère, il faut aussi traiter les problèmes du présent. C'est pas uniquement une question du passé qui se pose à nous.
Absolument. Et en même temps, le fait que cette résolution du Parlement européen dont parlait Nathalie Funès commence par ces mots Les vies noires comptent et que son but soit de reconnaître l'esclavage contre crime contre l'humanité, ça veut bien dire quand même que voilà, on fait officiellement le pont, que passé et présent sont quand même très clairement liés.
Oui, mais là, on n'est encore que dans le déclaratif.
Il y a aussi là une certaine force des excuses, hein, on l'a vu dans le passé pour d'autres événements comme la Shoah avec Jacques Chirac. Là, il y a eu des excuses publiques en Angleterre et en Écosse de la part de banques. Il y a eu un brasseur aussi qui a fait des excuses parce que les fondateurs de ces entreprises avaient été impliqués par le passé dans l'esclavage. Est-ce que vous pensez que cette démarche est importante et peut avoir un effet positif sur la complexité des mémoires en France.
Cette démarche est importante, mais moi j'en reste quand même à l'idée d'actes forts qui permettent de limiter les inégalités sociales dans notre pays, et surtout le fait que les descendants issus à la fois de l'empire colonial à l'époque de l'esclavage, puis de manière plus récente, de la colonisation des 19e et 20e siècles, ne se sentent pas et ne soient pas finalement des citoyens de seconde zone dans notre pays. Mais c'est pas seulement valable pour eux, hein. Dans votre journal, vous parliez des fractures de l'archipélisation de la société française. On voit ça aussi dans le périurbain. On l'a vu avec les manifestations des gilets jaunes. Par exemple, lorsque à l'école normale supérieure, vous avez 75% des reçus dans les disciplines littéraires qui viennent des lycées du centre parisien, on peut se poser des questions sur notre ascenseur social et sur le système de reproduction sociale des élites qui finalement ne font que se renouveler entre elles. Et c'est ces questions-là qui sont posées aussi par les gens qui manifestent et dont finalement les revendications ne sont pas aussi éloignées que celles des gilets jaunes il y a quelques mois.
Mais il y a aussi tout de même cette dimension de reconnaissance d'une leur histoire, en tout cas d'une histoire, et en l'occurrence de l'histoire de l'esclavage. Merci beaucoup Frédéric Régent, historien, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de La France et ses esclaves, publié chez Grasset en 2007, et plus récemment des Maîtres de la Guadeloupe, publié l'an dernier chez Talendier. Nous étions donc ce matin en partenariat avec l'OFS. Merci Nathalie Funès. Merci. Vous avez réalisé ce dossier Esclavage, un tabou français avec Doane Buy et François Reinhardt dans l'Obs qui est donc en kiosque.